Chapitre 60. Le conseil que venait de donner Isauricus à César était de marcher droit contre Pompée. Pison, au contraire, donnait à son beau-fils le conseil opposé. Il voulait que César envoyât des ambassadeurs à son ennemi et essayât une fois encore d'un accommodement. En effet, pour un homme qui ne se fût pas fié à son génie comme faisait César, le conseil était prudent. Tout le temps que César avait employé à vaincre l'Espagne, à soumettre Marseille, à apaiser des séditions, à calmer Rome en passant, à régler les intérêts des débiteurs et des créanciers en repassant, Pompée l'avait employé à réunir une gigantesque armée. Caton l'avait rejoint, Cicéron l'avait rejoint. Il n'y avait pas jusqu'à Marcus Brutus, dont il avait brutalement tué le père, nous avons raconté l'événement à propos des guerres civiles de Sylla, il n'y avait pas jusqu'à Marcus Brutus qui, sacrifiant son ressentiment à la patrie, ne l'eût rejoint. Étrange aveuglement de gens intelligents, cependant, qui appelaient Pompée la patrie, ce qui prouve qu'il y aura toujours deux patries dans une nation, la patrie du peuple et la patrie de l'aristocratie. Maintenant, disons en quelques mots de quelle force disposait Pompée. Pompée avait eu une année entière pour se préparer à la guerre. Pompée avait une flotte immense qu'il avait tirée des Cyclades, de Corfou, d'Athènes, du Pont, de la Bithynie, de la Syrie, de la Cilicie, de la Phénicie et de l'Égypte. 500 vaisseaux de guerre, sans compter les brigantins et les bâtiments légers. Pompée avait 9 légions romaines. 5 qui, d'Italie, étaient passées avec lui à Dyrrachium, une vieille de Sicile qu'on appelait la jumelle parce qu'elle était composée de 2 légions, une autre de Candie et de Macédoine formée de vétérans qui s'étaient établis en Grèce, enfin les 2 dernières avaient été levées en Asie par Lentulus. Et pour en remplir les vides, on avait fait des recrues en Thessalie et en Béotie, dans l'Achaïe et dans l'Épire. On en attendait 2 autres que Scipion devait amener de Syrie. Outre ces 2 autres, 3000 archers de Candie et 2 cohortes de frondeurs de 600 hommes chacune. Il avait 14 000 hommes de cavalerie, 7 000 appartenant à la fleur des chevaliers romains, 7 000 amenés par les alliés, 500 venant de la Cappadoce, commandés par Ariobarzane, 500 venant de la Thrace, commandés par Saphale, fils du roi Cotys, 600 venant de la Galatie, commandés par ce vieux Déjotarus que Crassus avait trouvé bâtissant une ville, et 300 autres commandés par Castor et le fils de Donilas. 200 venant de la Macédoine, commandés par Rassipolis, 500 Gaulois et Germains, laissés par Gabinius comme garde au roi Ptolémée Olétès et amenés par le jeune Pompée, 800 que celui-ci avait levés, soit de son argent, soit dans les propriétés de son père et les siennes, 200 venant de la Commagène, la plupart archers à cheval, envoyés par Antiochus. Enfin le reste, composé de volontaires ou soudoyés de divers pays, et particulièrement de la Thrace, de la Thessalie, de la Macédoine. Pour l'argent, Dieu merci, on n'en manquait pas. On avait les caisses des publicains de Rome et les trésors des satrapes de l'Orient. L'Orient était le fief du vainqueur de Mithridate. Rois et peuples étaient les clients de Pompée. La Grèce fut pour lui son dernier effort. Elle craignait César et son armée de barbares. Ces Gaulois, surtout, dont les ancêtres étaient venus assiéger le temple de Delphes. Quant aux vivres, on en regorgeait. On avait pour grenier l'Asie, l'Égypte, la Thessalie, Candie et Cyrène. On tenait toute la mer avec l'immense flotte qui se divisait en 6 escadres. Le jeune Pompée commandait celle d'Égypte, Lélius et Triasus celle d'Asie, Cassius celle de Syrie, Marcellus et Pomponius celle de Rhodes, Libon et Octavius celle d'Illyrie et d'Achaïe. Bibulus, l'inepte mais brave Bibulus, le gendre de Caton, avait le commandement général. Il est vrai que toute cette armée, composée d'éléments si divers, avait grand besoin d'être disciplinée. Mais, nous l'avons dit, pour arriver à ce résultat, Pompée avait eu une année entière. Pendant cette année, il avait sans relâche exercé ses troupes. Lui-même, toujours en activité, comme s'il n'eût eu que 25 ans, et il en avait 58, faisait les mêmes exercices que ses soldats. Or, c'était pour ceux-ci un grand encouragement que de voir à cet âge leur ancien général s'exercer à pied tout armé. Puis, montant à cheval, tirant et remettant son épée au fourreau pendant que son cheval l'emportait à toute bride, lançait le javelot non seulement avec adresse mais encore avec force et à une telle distance que les jeunes gens essayaient vainement de faire ce que faisait Pompée. Et remarquez que tout cela se passait en présence de 4 ou 5 rois d'Orient et des hommes les plus renommés de l'Occident, des Caton, des Cicéron, des Marcus Brutus et du vieux Tedius Sextius, qui, tout sexagénaire et boiteux qu'il était, avait quitté Rome pour venir, disait-il, la retrouver dans le camp de Pompée. Pompée comptait bien aussi que Rome était avec lui. Mais la chose sur laquelle il comptait surtout, c'était de ne pas être attaqué avant le printemps. On était au mois de novembre. Il songea qu'il pouvait prendre ses quartiers d'hiver et les faire prendre à ses soldats. Il réunit sénateurs et chevaliers. « Seigneurs et citoyens, dit-il, l'histoire nous apprend que les Athéniens abandonnèrent jadis leur ville pour mieux résister à l'ennemi et mieux défendre leur liberté parce que Thémistocle pensait que les murailles et les maisons ne constituaient pas, pour un peuple, ce qu'on appelle la ville. Et bientôt après, en effet, Xerxès vaincu, Salamine immortalisé, les Athéniens rentrèrent dans Athènes et la réédifièrent plus belle et plus glorieuse qu'elle n'avait jamais été. Nous fîmes de même, nous autres Romains, quand les Gaulois envahirent l'Italie. Nos pères abandonnèrent la ville, puis se retirèrent à Ardée, et Camille et eux pensèrent comme Thémistocle que la patrie était là où ils étaient. C'est en souvenir de ces deux grands événements, et conseillés par eux, qu'à notre tour nous avons abandonné l'Italie pour venir où nous sommes. Mais au nom de la patrie, nous chasserons, nous aussi, César de Rome. Et il faut l'en chasser, entendez-vous bien? Car que croyez-vous qu'il fasse s'il était victorieux? Pensez-vous que celui qui prend les armes contre la patrie s'épargnât aucune cruauté, aucune violence? L'homme que sa rapacité, son avarice, son amour de l'argent ont fait exécrer dans les Gaules, se fera-t-il scrupule de fouiller dans la bourse des citoyens comme il a fouillé dans le trésor public? Quant à moi, dans cette grande crise de la patrie, marquez-moi ma place. Je combattrai au rang que vous me désignerez, je combattrai comme soldat ou comme capitaine. Tout ce que je demande aux dieux, c'est que si l'on me reconnaît quelque expérience de la guerre, quelque courage personnel, quelque connaissance en tactique militaire, si l'on veut bien se souvenir que je n'ai jamais été vaincu, tout ce que je demande aux dieux, c'est de contribuer dans une mesure quelconque à la vengeance de la patrie. » Après ces paroles, Pompée se tut, et tous, d'une seule voix, le proclamèrent impérator et le réclamèrent pour leur chef suprême. Alors Pompée les remercia et leur dit que, selon toute probabilité, César, arrêté par les mauvais temps et l'impétuosité de la mer, n'entreprendrait pas de toute la saison de venir en Illyrie, mais demeurerait à Rome pour faire confirmer sa dictature. En conséquence, tout en ordonnant à ses officiers de mer de bien garder le passage, il envoya ses soldats hiverner en Macédoine et en Thessalie. Mais, en même temps que Pompée faisait ce discours à son armée et à ses partisans, César, après 11 jours seulement de halte à Rome, était arrivé à Brindes presque seul, sans matériel et sans vivres, et rassemblant 20 000 hommes, il leur disait « Camarades, vous êtes venus avec moi pour faire de grandes choses, n'est-ce pas ? Eh bien, pour ceux qui ont fermement arrêté une pareille résolution, il n'y a ni hiver ni tempête. Cela, rien ne doit les arrêter. Ni l'absence de vivres, ni le défaut de machines, ni la lenteur de nos compagnons. Rien ne doit donc nous empêcher de poursuivre notre guerre, et la seule chose qui soit indispensable au succès, c'est la célérité. Je suis donc d'avis que nous laissions ici nos valets, nos serviteurs, nos bagages, que nous montions sur les premiers navires que nous trouverons, pourvu qu'il y en ait assez pour nous porter tous tant que nous sommes, et que nous profitions au contraire de l'hiver qui les rassure pour tomber sur nos ennemis au moment où ils s'y attendront le moins. Quant au petit nombre, le courage y suppléera. Reste les vivres. Le camp de Pompée est dans l'abondance. Chassons Pompée de son camp et nous ne manquerons de rien. Le monde sera à nous. Rappelez-vous ceci, c'est que nous sommes citoyens et que nous avons affaire à des esclaves. Maintenant, quiconque ne voudra pas risquer la même fortune que celle de César sera libre d'abandonner César. » Il n'y eut qu'un cri pour répondre à ce discours. « Partons !» 8 jours après, sans vivres, sans machines de guerre, avec 25 ou 30 000 hommes seulement, sans attendre les troupes auxquelles il avait donné rendez-vous à Brindes, César monta sur une 50aine de vaisseaux qu'il promit de renvoyer pour chercher une 20aine de 1000 hommes restés en arrière, et, passant au milieu de cette immense flotte de Bibulus, il alla débarquer dans un endroit désert, près d'Apollonie, sur les grèves, au milieu des rochers, tous les ports étant gardés par les Pompéiens. Il venait avec 25 000 hommes, en assiégé 150 000. Et cependant, ses légions, parties des bords de la Sègre, avaient franchi la Narbonnaise, la Gaule transalpine, avaient traversé Rome comme une étape ordinaire, s'étaient engagées sur la Via Appia et marchaient sur Brindes tout en murmurant « Jusqu'où cet homme veut-il nous conduire ? Combien de temps nous traînera-t-il encore à sa suite ? Quand mettra-t-il un terme à nos travaux ? Croit-il donc que nous ayons des jarrets d'acier et des cordes de fer pour nous pousser d'un bout du monde à l'autre, de l'est à l'ouest, du nord au midi, de l'orient à l'occident ? Mais le fer et l'acier s'usent eux-mêmes par les coups qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. Aux cuirasses elles-mêmes, aux glaives eux-mêmes, il faut du repos. Les cuirasses pour qu'elles résistent, les glaives pour qu'ils ne s'émoussent pas. César, en voyant nos blessures, devrait songer qu'il commande à des hommes mortels et que nous ne pouvons souffrir des fatigues au-dessus de l'humanité. Un dieu même se lasserait à faire ce que nous avons fait. On dirait, à voir la rapidité de sa marche, qu'il fuit l'ennemi au lieu de le poursuivre. Assez, César, assez! Et, découragés, les malheureux s'asseyaient au revers de la route et secouaient la tête aux exhortations de leur chef. Ne vous semble-t-il pas entendre les plaintes de ces vétérans que Napoléon poussait du Nil au Danube, du Mancaranèse au Volga ? Mais quand les vétérans de César arrivèrent à Brindes et qu'ils virent que César était parti sans eux, ils se retournèrent vers leur chef et, pleurant de colère, « C'est votre faute, dirent-ils, si nous ne sommes point partis avec lui. » Il fallait nous presser par les routes au lieu de nous laisser reposer comme des lâches et des paresseux. Ah, nous sommes des misérables, nous avons trahi notre général. » Et comme on leur dit que les 50 vaisseaux qui conduisaient en Grèce César et leurs compagnons les devaient venir rejoindre, ils allèrent s'asseoir sur les falaises pour voir de plus loin les voiles désirées blanchir à l'horizon.